Bonjour, nous vous proposons ce jour la 13e émission de nos séries consacrées à Marcel Proust. Le thème de cette émission est les ruptures amoureuses. Les relations amoureuses tiennent une place importante, sans doute même la première, dans l'œuvre de Marcel Proust. Naissance des amours, évolution des amours et bien entendu fin des amours. Donc, des ruptures sous diverses formes, et d'ailleurs pas toujours définitives, que Marcel Proust s'est attaché à explorer dans leurs méandres les plus obscurs et les plus secrets, pour nous les offrir en pleine lumière, et nous inviter, bien sûr, à les confronter aux histoires de nos propres vies. C'est là où est l'enjeu de cette littérature. Comme pour toutes nos autres émissions proustiennes, un partenaire, comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique, sur qui repose cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie grandement. Bonne écoute.
Ne pouvant se séparer d'elle sans retour, du moins, s'il l'avait vue sans séparation, sa douleur aurait fini par s'apaiser, et peut-être son amour par s'éteindre. Et du moment qu'elle ne voulait pas quitter Paris à jamais, il eût souhaité qu'elle ne le quittât jamais. Du moins, comme il savait que la seule grande absence qu'elle faisait était tous les ans celle d'août et septembre, il avait le loisir, plusieurs mois à l'avance, d'en dissoudre l'idée amère dans tout le temps à venir qu'il portait en lui par anticipation et qui, composé de jours homogènes aux jours actuels, circulait transparent et froid en son esprit, où il entretenait la tristesse, mais sans lui causer de trop vives souffrances. Mais cet avenir intérieur, ce fleuve incolore et libre, voici qu'une seule parole d'Odette venait l'atteindre jusqu'en Swann, et comme un morceau de glace l'immobilisait, durcissait sa fluidité, le faisait geler tout entier, et Swann s'était rempli soudain d'une masse énorme et infrangible qui pesait sur les parois intérieures de son être jusqu'à la faire éclater. C'est qu'Odette lui avait dit, avec un regard souriant et sournois qu'il observait, « Forcheville va faire un beau voyage à la Pentecôte. Il va en Égypte. » Et Swann avait aussitôt compris que cela signifiait « Je vais aller en Égypte, à la Pentecôte, avec Forcheville. » Et en effet, si quelques jours après, Swann lui disait « Voyons, à propos de ce voyage que tu m'as dit que tu ferais avec Forcheville, » elle répondait étourdiment « « Oui, mon petit, nous partons le 19. On t'enverra une vue des pyramides. » Alors il voulait apprendre si elle était la maîtresse de Forcheville, le lui demander à elle-même. Il savait que, superstitieuse comme elle était, il y avait certains parjures qu'elle ne ferait pas. Et puis la crainte qu'il avait retenue jusqu'ici d'irriter Odette en l'interrogeant, de se faire détester d'elle, n'existait plus maintenant qu'il avait perdu tout espoir d'en être aimé. Swann, comme beaucoup de gens avaient l'esprit paresseux et manquaient d'invention. Il savait bien, comme une vérité générale, que la vie des êtres est pleine de contrastes. Mais pour chaque être, en particulier, il imaginait toute la partie de sa vie qu'il ne connaissait pas comme identique à la partie qu'il connaissait. Il imaginait ce qu'on lui taisait à l'aide de ce qu'on lui disait. Dans les moments où Odette était auprès de lui, s'ils parlaient ensemble d'une action indélicate commise ou d'un sentiment indélicat éprouvé par un autre, elle les flétrissait en vertu des mêmes principes que Swann avait toujours entendu professer par ses parents et auxquels il était resté fidèle. Et puis, elle arrangeait ses fleurs, elle buvait une tasse de thé, elle s'inquiétait des travaux de Swann. Donc Swann étendait ses habitudes au reste de la vie d'Odette. Il répétait ses gestes quand il voulait se représenter les moments où elle était loin de lui. Si on la lui avait dépeinte telle qu'elle était, ou plutôt qu'elle avait été si longtemps avec lui, mais auprès d'un autre homme, il eût souffert, car cette image lui eût paru invraisemblable. Mais qu'elle alla chez des maquerelles, se livra à des orgies avec des femmes, qu'elle mena la vie crapuleuse de créatures abjectes, quelle divagation insensée, à la réalisation de laquelle, Dieu merci, les chrysanthèmes imaginés, l'été successif, les indignations vertueuses ne laissaient aucune place. Seulement, de temps à autre, il laissait entendre à Odette que par méchanceté, on lui racontait tout ce qu'elle faisait. Et se servant à propos d'un détail insignifiant, mais vrai, qu'il avait appris par hasard, comme s'il était le seul petit bout qu'il laissa passer malgré lui, entre tant d'autres, d'une reconstitution complète de la vie d'Odette qu'il tenait cachée en lui, il l'amenait à supposer qu'il était renseigné sur des choses qu'en réalité il ne savait ni même ne soupçonnait. Car si bien souvent il adjurait Odette de ne pas altérer la vérité, c'était seulement qu'il s'en rendit compte ou non pour qu'Odette lui dit tout ce qu'elle faisait. Sans doute, comme il disait à Odette, il aimait la sincérité. Mais il l'aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant de la vie de sa maîtresse. Aussi son amour de la sincérité, n'étant pas désintéressé, ne l'avait pas rendu meilleur. La vérité qu'il chérissait, c'était celle que lui dirait Odette, mais lui-même, pour obtenir cette vérité, ne craignait pas de recourir au mensonge. Le mensonge qu'il ne cessait de peindre à Odette comme conduisant à la dégradation de toute créature humaine. En somme, il mentait autant qu'Odette, parce que plus malheureux qu'elle, il n'était pas moins égoïste. Et elle, entendant Swann lui raconter ainsi à elle-même des choses qu'elle avait faites, le regardait d'un air méfiant. Et à toute aventure fâché, pour ne pas avoir l'air de s'humilier et de rougir de ses actes. Car ce que nous croyons notre amour, notre jalousie, n'est pas une même passion continue, indivisible. Il se compose d'une infinité d'amours successifs, de jalousies différentes et qui sont éphémères. Mais par leur multitude ininterrompue, donnent l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité. La vie de l'amour de Swann, la fidélité de sa jalousie, était faite de la mort, de l'infidélité, d'innombrables désirs, d'innombrables doutes, qui avaient tous Odette pour objet. S'il était resté longtemps sans la voir, ceux qui mouraient n'auraient pas été remplacés par d'autres, mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le cœur de Swann de tendresse et de soupçons alternés. Certains soirs, elle redevenait tout d'un coup avec lui d'une gentillesse dont elle l'avertissait durement qu'il devait profiter tout de suite, sous peine de ne pas la voir se renouveler avant des années. Il fallait rentrer immédiatement chez elle, faire Cattleya. Et ce désir qu'elle prétendait avoir de lui était si soudain, si inexplicable, si impérieux, les caresses qu'elle lui prodiguait ensuite, si démonstratives et si insolites, que cette tendresse brutale et sans vraisemblance faisait autant de chagrin à Swann qu'un mensonge et qu'une méchanceté. Un soir qu'il était ainsi, sur l'ordre qu'elle lui en avait donné, rentrer avec elle et qu'elle entremêlait ses baisers de paroles passionnées qui contrastaient avec sa sécheresse ordinaire, il crut tout d'un coup entendre du bruit. Il se leva, chercha partout, ne trouva personne. Mais n'eut pas le courage de reprendre sa place auprès d'elle, qui alors, au comble de la rage, brisa un vase et dit à Swann « On ne peut jamais rien faire avec toi. » Et il resta incertain si elle n'avait pas caché quelqu'un dont elle avait voulu faire souffrir la jalousie ou allumer les sens. Jadis, ayant souvent pensé avec terreur qu'un jour il cesserait d'être épris d'Odette, il s'était promis d'être vigilant, et dès qu'il sentirait que son amour commencerait à le quitter, de s'accrocher à lui, de le retenir. Mais voici qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément un affaiblissement du désir de rester amoureux. Car on ne peut pas changer, c'est-à-dire devenir une autre personne tout en continuant d'obéir aux sentiments de celle qu'on n'est plus. Parfois le nom aperçu dans un journal d'un des hommes qu'il supposait avoir pu être les amants d'Odette lui redonnait de la jalousie, mais elle était bien légère, et comme elle lui prouvait qu'il n'était pas encore complètement sorti de ce temps où il avait tant souffert, mais aussi où il avait connu une manière de sentir si voluptueuse, et que les hasards de la route lui permettaient peut-être d'en apercevoir encore furtivement et de loin les beautés. Cette jalousie lui procurait plutôt une excitation agréable, comme au morne parisien de quitter Venise pour retrouver en France un dernier moustique prouve que l'Italie et l'été ne sont pas encore bien loin. Mais le plus souvent, le temps si particulier de sa vie d'où il sortait, quand il faisait effort, sinon pour y rester, du moins pour en avoir une vision claire pendant qu'il le pouvait encore, il s'apercevait qu'il ne le pouvait déjà plus. Il aurait voulu apercevoir comme un paysage qui allait disparaître cet amour qu'il venait de quitter. Mais il est si difficile d'être double et de se donner le spectacle véridique d'un sentiment qu'on a cessé de posséder, que bientôt l'obscurité se faisant dans son cerveau, il ne voyait plus rien, renonçait à regarder, retirait son lorgnon, en essuyait les verres. Et il se disait qu'il valait mieux pour se reposer un peu, qu'il serait encore temps tout à l'heure, et se rencoignait avec l'incuriosité dans l'engourdissement du voyageur ensommeillé qui rabat son chapeau sur ses yeux pour dormir dans le wagon, qu'il sent l'entraîner de plus en plus vite, loin du pays où il a si longtemps vécu, et qu'il s'était promis de ne pas laisser fuir sans lui donner un dernier adieu. Même, comme ce voyageur, s'il se réveille seulement en France quand Swann ramassa par hasard près de lui la preuve que Forcheville avait été l'amant d'Odette, il s'aperçut qu'il n'en ressentait aucune douleur, que l'amour était loin maintenant, et regretta de n'avoir pas été averti du moment où il le quittait pour toujours. Et de même qu'avant d'embrasser Odette pour la première fois, il avait cherché à imprimer dans sa mémoire le visage qu'elle avait eu si longtemps pour lui, et qu'allait transformer le souvenir de ce baiser, de même, il eût voulu, en penser au moins, avoir pu faire ses adieux pendant qu'elle existait encore à cette Odette, lui inspirant de l'amour, de la jalousie, à cette Odette lui causant des souffrances, et que maintenant, il ne reverrait jamais. Moi aussi, depuis que j'étais rentré et déclarais vouloir rompre, je mentais aussi. D'ailleurs, même en repensant par à coup, par élancement, comme on dit pour les autres douleurs physiques, à cette vie organique qu'avait menée Albertine avant de me connaître, j'admirais davantage la docilité de ma captive et je cessais de lui en vouloir. Seulement cette simulation entraînait pour moi un peu de la tristesse. Qu'aurais-tu l'intention véritable et que j'étais obligé de me représenter pour la feindre? Sans doute jamais, durant notre vie commune, je n'avais cessé de laisser entendre à Albertine que cette vie ne serait vraisemblablement que provisoire, de façon qu'Albertine continua à y trouver quelque charme. Mais ce soir, j'avais été plus loin, ayant craint que de vagues menaces de séparation ne fussent plus suffisantes, contredites qu'elles seraient sans doute dans l'esprit d'Albertine par son idée d'un grand amour jaloux pour elle qui m'aurait, semblait-elle dire, faire aller enquêter chez les Verdurin. Ce soir-là, je pensais que parmi les autres causes qui avaient pu me décider brusquement, sans même m'en rendre compte, qu'au fur et à mesure à jouer cette comédie de rupture, il y avait surtout que quand une de ces impulsions comme en avait mon père, je menaçais un être dans sa sécurité, comme je n'avais pas comme lui le courage de réaliser une menace, pour ne pas laisser croire qu'elle n'avait été que parole en l'air, j'allais assez loin dans les apparences de la réalisation et ne me repliais que quand l'adversaire, ayant vraiment l'illusion de ma sincérité, avait tremblé pour tout de bon. D'ailleurs, dans ces mensonges, nous sentons bien qu'il y a de la vérité, que si la vie n'apporte pas de changement à nos amours, c'est nous-mêmes qui voudrons en apporter ou en feindre et parler de séparation. Tant nous sentons que tous les amours et toutes choses évoluent rapidement vers l'adieu. On veut pleurer les larmes qu'il apportera bien avant qu'ils surviennent. Sans doute, y avait-il cette fois dans la scène que j'avais joué une raison d'utilité? J'avais soudain tenu à la garder parce que je la sentais éparse en d'autres êtres auxquels je ne pouvais l'empêcher de se joindre. Mais eût-elle à jamais renoncé à tous pour moi, que j'aurais peut-être résolu plus fermement encore de ne la quitter jamais, car la séparation est par la jalousie rendue cruelle, mais par la reconnaissance, impossible. Je sentais en tout cas que je livrais la grande bataille où je devais vaincre ou succomber. J'aurais offert à Albertine en une heure tout ce que je possédais parce que je me disais « tout dépend de cette bataille ». Mais ces batailles ressemblent moins à celles d'autrefois qui duraient quelques heures qu'à une bataille contemporaine qui n'est finie ni le lendemain, ni le surlendemain, ni la semaine suivante. On donne toutes ses forces parce qu'on croit toujours que ce sont les dernières dont on aura besoin. Et plus d'une année se passe sans amener la décision.
Thank you.
J'étais arrivé à une presque complète indifférence à l'égard de Gilberte quand 2 ans plus tard, je partis avec ma grand-mère pour Balbec. Quand je subissais le charme d'un visage nouveau, quand c'était à l'aide d'une autre jeune fille que j'espérais connaître les cathédrales gothiques, les palais, les jardins de l'Italie, je me disais tristement que notre amour, en tant qu'il est l'amour d'une certaine créature, n'est peut-être pas quelque chose de bien réel, puisque si des associations de rêverie agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme jusqu'à nous faire penser qu'il a été inspiré par elle d'une façon nécessaire, en revanche, si nous nous dégageons volontairement ou à notre insu de ces associations, cet amour, comme s'il était au contraire spontané et venait de nous seuls, renaît pour se donner à une autre femme. Pourtant, au moment de ce départ pour Balbec, et pendant les premiers temps de mon séjour, mon indifférence n'était encore qu'intermittente. Souvent, notre vie étant si peu chronologique, interférant tant d'anachronismes dans la suite des jours, je vivais dans ceux plus anciens que la veille ou l'avant-veille, où j'aimais Gilberte. Alors ne plus la voir m'était soudain douloureux, comme c'eût été dans ce temps-là. Le moi qu'il avait aimé, remplacé déjà presque entièrement par un autre, ressurgissait, et il m'était rendu beaucoup plus fréquemment par une chose futile que par une chose importante. Par exemple, pour anticiper sur mon séjour en Normandie, j'entendis à Balbec un inconnu que je croisais sur la digue dire « La famille du directeur du ministère des Postes. » Or, comme je ne savais pas alors l'influence que cette famille devait avoir sur ma vie, ce propos aurait dû me paraître oiseux, mais il me causa une vive souffrance. Celle qu'éprouvait un moi aboli, pour une grande part depuis longtemps, à être séparé de Gilberte. C'est que jamais je n'avais repensé à une conversation que Gilberte avait eue devant moi avec son père relativement à la famille du directeur du ministère des Postes. Or, les souvenirs d'amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire. Elles-mêmes, régies par les lois plus générales de l'habitude. Comme celle-ci affaiblit tout, ce qui nous rappelle le mieux un être, c'est justement ce que nous avons oublié parce que c'était insignifiant et que nous lui avons laissé ainsi toute sa force. C'est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, dans l'odeur de renfermé d'une chambre, ou dans l'odeur d'une première flambée. Partout nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence, n'en ayant pas l'emploi, avait dédaigné. La dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui, quand toutes nos larmes semblent taries, sait nous faire pleurer encore. Hors de nous, en nous pour mieux dire, mais dérobés à nos propres regards, dans un oubli plus ou moins prolongé. C'est grâce à cet oubli seul que nous pouvons de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes, nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l'était, souffrir à nouveau, parce que nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu'il aimait ce qui nous est maintenant indifférent. Au grand jour de la mémoire habituelle, Les images du passé pâlissent peu à peu, s'effacent. Il ne reste plus rien d'elles. Nous ne les retrouvons plus. Ou plutôt, nous ne les retrouverions plus si quelques mots comme « directeur au ministère des postes » n'avaient été soigneusement enfermés dans l'oubli, de même qu'on dépose à la Bibliothèque nationale un exemplaire d'un livre qui, sans cela, risquerait de devenir introuvable. Mais cette souffrance et ce regain d'amour pour Gilberte ne furent pas plus longs que ceux qu'on a en rêve, et cette fois au contraire, parce qu'à Balbec, l'habitude ancienne n'était plus là pour les faire durer. Et si ces effets de l'habitude semblent contradictoires, c'est qu'elle obéit à des lois multiples. À Paris, j'étais devenu de plus en plus indifférent à Gilberte grâce à l'habitude. Le changement d'habitude, c'est-à-dire la cessation momentanée de l'habitude, paracheva l'œuvre de l'habitude quand je partis pour Balbec. Elle affaiblit, mais stabilise. Elle amène la désagrégation, mais la fait durer indéfiniment. Chaque jour, depuis des années, je calquais tant bien que mal mon état d'âme sur celui de la veille. À Balbec, un lit nouveau, à côté duquel on m'apportait le matin un petit déjeuner différent de celui de Paris, ne devait plus soutenir les pensées dont s'était nourri mon amour pour Gilberte. Il y a des cas, assez rares il est vrai, où la sédentarité immobilisant les jours, le meilleur moyen de gagner du temps, c'est de changer de place. Mon voyage à Balbec fut comme la première sortie d'un convalescent qui n'attendait plus qu'elle pour s'apercevoir qu'il était guéri. J'appris qu'une querelle avait éclaté entre Saint-Loup et sa maîtresse, soit par correspondance, soit qu'elle fût venue un matin le voir entre deux trains, et les querelles, même moins graves, qu'ils avaient eues jusqu'ici, semblaient toujours devoir être insolubles. Car elle était de mauvaise humeur, trépignait, pleurait, pour des raisons aussi incompréhensibles que les enfants qui s'enferment dans un cabinet noir ne viennent pas dîner, refusant toute explication, et ne font que redoubler de sanglots quand, à bout de raison, on leur donne des claques. Saint-Loup souffrit horriblement de cette brouille, mais c'est une manière de dire qui est trop simple et fausse par là l'idée qu'on doit se faire de cette douleur. Quand il se retrouva seul, n'ayant plus qu'à songer à sa maîtresse, parti avec le respect pour lui qu'elle avait éprouvé en le voyant si énergique, les anxiétés qu'il avait eues les premières heures prirent fin devant l'irréparable. Et la cessation d'une anxiété est une chose si douce que la brouille, une fois certaine, prit pour lui un peu du même genre de charme qu'aurait eu une réconciliation. Ce dont il commença à souffrir un peu plus tard, ce furent une douleur, un accident secondaire, dont les flux venaient incessamment de lui-même, à l'idée que peut-être Elle aurait bien voulu se rapprocher, qu'il n'était pas impossible qu'elle attendît un mot de lui, qu'en attendant pour se venger, elle ferait peut-être tel soir à tel endroit telle chose, et qu'il n'y aurait qu'à lui télégraphier qu'il arrivait pour qu'elle n'eût pas lieu, que d'autres peut-être profitaient du temps qu'il laissait perdre, et qu'il serait trop tard dans quelques jours pour la retrouver, car elle serait prise. De toutes ces possibilités, il ne savait rien. Sa maîtresse gardait un silence qui finit par affoler sa douleur, jusqu'à lui faire se demander si elle n'était pas cachée à Doncières ou partie pour les Indes. On a dit que le silence était une force. Dans un tout autre sens, il en est une, terrible, à la disposition de ceux qui sont aimés. Elle accroît l'anxiété de qui attend. Rien n'invite tant à s'approcher d'un être que ce qui en sépare. Et quelle plus infranchissable barrière que le silence! On a dit aussi que le silence était un supplice et capable de rendre fou celui qui y était astreint dans les prisons. Mais quel supplice, plus grand que de garder le silence, de l'endurer de ce qu'on aime. Robert se disait, que fait-elle donc pour qu'elle se taise ainsi? Sans doute elle me trompe avec d'autres. Il se disait encore, « Qu'ai-je donc fait pour qu'elle se taise ainsi? Elle me hait peut-être et pour toujours. » Et il s'accusait. Ainsi le silence le rendait fou, en effet, par la jalousie et par le remords. D'ailleurs plus cruel que celui des prisons, ce silence-là est prison lui-même. Une clôture immatérielle, mais impénétrable, cette tranche interposée d'atmosphère vide, mais que les rayons visuels de l'abandonné ne peuvent traverser. Est-il un plus terrible éclairage que le silence qui ne nous montre pas une absente, mais mille, et chacune se livrant à quelque autre trahison? Parfois, dans une brusque détente, ce silence, Robert croyait qu'il allait cesser un instant, que la lettre attendue allait venir. Il la voyait, elle arrivait, il épiait chaque bruit, il était déjà désaltéré. Il murmurait « La lettre, la lettre !» Après avoir entrevu ainsi une oasis imaginaire de tendresse, il se retrouvait piétinant dans le désert réel du silence sans fin. Il souffrait d'avance, sans en oublier une, toutes les douleurs d'une rupture qu'à d'autres moments il croyait pouvoir éviter, comme les gens qui règlent toutes leurs affaires en vue d'une expatriation qui ne s'effectuera pas et dont la pensée, qui ne sait plus où elle devra se situer le lendemain, s'agite momentanément. Détaché d'eux, pareil à ce cœur qu'on arrache à un malade et qui continue à battre, séparé du reste du corps. En tout cas, cette espérance que sa maîtresse reviendrait lui donnait le courage de persévérer dans la rupture, comme la croyance qu'on pourra revenir vivant du combat aide à affronter la mort. Et comme l'habitude est de toutes les plantes humaines, celle qui a le moins besoin de sol nourricier pour vivre et qui apparaît la première sur le roc en apparence le plus désolé, peut-être, en pratiquant d'abord la rupture par feinte, aurait-il fini par s'y accoutumer sincèrement. Mais l'incertitude entretenait chez lui un état qui, lié au souvenir de cette femme, ressemblait à l'amour. Il se forçait cependant à ne pas lui écrire, pensant peut-être que le tourment était moins cruel de vivre sans sa maîtresse qu'avec elle, dans certaines conditions, ou qu'après la façon dont il s'était quitté, attendre des excuses était nécessaire pour qu'elle conservât ce qu'il croyait qu'elle avait pour lui sinon d'amour, du moins d'estime et de respect. Il se contentait d'aller au téléphone qu'on venait d'installer à Doncières et de demander des nouvelles, ou de donner des instructions à une femme de chambre qu'il avait placée auprès de son ami. Ses communications étaient du reste compliquées et lui prenaient plus de temps parce que, suivant les opinions de ses amis littéraires relativement à la laideur de la capitale, mais surtout en considération de ses bêtes, de ses chiens, de son singe, de ses serins et de son perroquet, dont son propriétaire de Paris avait cessé de tolérer les cris incessants, la maîtresse de Robert venait de louer une petite propriété aux environs de Versailles. Cependant, lui, à Doncières, ne dormait plus un instant la nuit. Une fois chez moi, vaincu par la fatigue, il s'assoupit un peu. Mais tout d'un coup, il commença à parler. Il voulait courir, empêcher quelque chose. Il disait « Je l'entends, vous ne... » Il s'éveilla. Il me dit qu'il venait de rêver qu'il était à la campagne chez le maréchal des logis chef. Celui-ci avait tâché de l'écarter d'une certaine partie de la maison. Saint-Loup avait deviné que le maréchal des logis avait chez lui un lieutenant très riche et très vicieux, qu'il savait désirer beaucoup son ami. Et tout à coup, dans son rêve, il avait distinctement entendu les cris intermittents et réguliers qu'avait l'habitude de pousser sa maîtresse aux instants de volupté. Il avait voulu forcer le maréchal des logis de le mener à la chambre. Et celui-ci le maintenait pour l'empêcher d'y aller tout en ayant un certain air froissé de tant d'indiscrétion que Robert disait qu'il ne pourrait jamais oublier. « Mon rêve est idiot, » ajouta-t-il encore tout essoufflé. Mais je vis bien que pendant l'heure qui suivit, il fut plusieurs fois sur le point de téléphoner à sa maîtresse pour lui demander de se réconcilier. Le cauchemar qu'avait eu Saint-Loup s'effaça un peu de son esprit. Le regard dur et fixe, il vint me voir durant ces jours atroces qui dessinèrent pour moi, en se suivant l'un l'autre, comme la courbe magnifique de quelque rampe durement forgée, d'où Robert restait à se demander quelle résolution son ami allait prendre. Enfin, elle lui demanda s'il consentirait à pardonner. Aussitôt qu'il eut compris que la rupture était évitée, il vit tous les inconvénients d'un rapprochement. D'ailleurs, il souffrait déjà moins et avait presque accepté une douleur dont il faudrait, dans quelques mois peut-être, retrouver à nouveau la morsure si sa liaison recommençait. Il n'hésita pas longtemps. Et peut-être n'hésita-t-il pas parce qu'il était enfin certain de pouvoir reprendre sa maîtresse, de le pouvoir, donc de le faire.
Thank you.
C'est à ce moment que nous rentrâmes au salon. « Ah !» s'écria Monsieur de Charlus en voyant que Morel était là, et marchant vers le musicien avec le genre d'allégresse des hommes qui ont organisé savamment toute leur soirée en vue d'un rendez-vous avec une femme et qui, tout enivré, ne se doutent guère qu'ils ont dressé eux-mêmes le piège où vont les saisir et devant tout le monde les rosser des hommes apostés par le mari. Eh bien, enfin, ce n'est pas trop tôt. Êtes-vous content, jeune gloire, et bientôt jeune chevalier de la Légion d'honneur? Car bientôt, vous pourrez montrer votre croix, demanda Monsieur de Charlus à Morel d'un air tendre et triomphant. Mais, par ces mots mêmes de décoration, contresignant les mensonges de Madame Verdurin, qui apparurent une vérité indiscutable à Morel. « Laissez-moi !»« Je vous défends de m'approcher !» cria Morel au baron. « Vous ne devez pas être à votre coup d'essai. Je ne suis pas le premier que vous essayez de pervertir. » Ma seule consolation était de penser que j'allais voir Morel et les Verdurin pulvérisés par Monsieur de Charlus. Pour mille fois moins que cela, j'avais essuyé ces colères de fou. Personne n'était à l'abri d'elles. Un roi ne l'eût pas intimidé. Or, il se produisit cette chose extraordinaire. On vit Monsieur de Charlus muet, stupéfait, mesurant son malheur sans en comprendre la cause, ne trouvant pas un mot, levant les yeux successivement sur toutes les personnes présentes d'un air interrogateur, indigné, suppliant, et qui semblait leur demander moins encore ce qui s'était passé que ce qu'il devait répondre. Peut-être ce qui le rendait muet était-ce, en voyant que Monsieur et Madame Verdurin détournaient les yeux et que personne ne lui porterait secours, la souffrance présente et l'effroi surtout des souffrances à venir, ou bien que, ne s'étant pas d'avance par l'imagination monté la tête et forgé une colère, n'ayant pas de rage toute prête en main, car sensitif, nerveux, hystérique, il était un vrai impulsif, mais un faux brave. Même, comme je l'avais toujours cru, et ce qui me le rendait assez sympathique, un faux méchant, et n'avait pas les réactions normales de l'homme d'honneur outragé. N'ayant donc pas de rage toute prête en main, on l'avait saisi et brusquement frappé au moment où il était sans armes, ou bien que, dans un milieu qui n'était pas le sien, il se sentait moins à l'aise et moins courageux qu'il n'eût été dans le faubourg. Toujours est-il que, dans ce salon qu'il dédaignait, ce grand seigneur ne sut, dans une paralysie de tous les membres et de la langue, que jeter de tous côtés les regards épouvantés, indignés par la violence qu'on lui faisait, aussi suppliant qu'interrogateur. Pourtant, Monsieur de Charlus possédait toutes les ressources, non seulement de l'éloquence, mais de l'audace. Quand, pris d'une rage qui bouillonnait depuis longtemps, il clouait de désespoir par les mots les plus sanglants devant les gens du monde scandalisés et qui n'avaient jamais cru qu'on pût aller si loin. Les actions déconcertantes de nos semblables, nous en découvrons rarement les mobiles. Ainsi, monsieur de Charlus ne vit dans l'attitude de Charlie qu'une seule chose claire. Charlie, qui avait souvent menacé le baron de raconter quelle passion il lui inspirait, avait dû profiter pour le faire de ce qu'il se croyait maintenant suffisamment arrivé pour voler de ses propres ailes, et il avait dû tout raconter par pure ingratitude à Madame Verdurin. Mais comment celle-ci s'était-elle laissée tromper? Car le baron, décidé à nier, était déjà persuadé lui-même que les sentiments qu'on lui reprocherait étaient imaginaires. Des amis de Madame Verdurin, peut-être ayant eux-mêmes une passion pour Charlie, avaient préparé le terrain. En conséquence, monsieur de Charlus, les jours suivants, écrivit des lettres terribles à plusieurs fidèles, entièrement innocents, qui le crurent fou. Puis il alla faire à Madame Verdurin un long récit attendrissant, lequel n'eut d'ailleurs nullement l'effet qu'il souhaitait. Car d'une part, Madame Verdurin répétait au baron, « Vous n'avez qu'à ne plus vous occuper de lui. Dédaignez-le, c'est un enfant. » Or le baron ne soupirait qu'après une réconciliation. D'autre part, pour amener celle-ci, en supprimant à Charlie tout ce dont il s'était cru assuré, il demandait à Madame Verdurin de ne plus le recevoir, ce à quoi elle opposa un refus qui lui valut des lettres irritées et sarcastiques de monsieur de Charlus. Allant d'une supposition à l'autre, monsieur de Charlus ne fit jamais la vraie, à savoir que le coup n'était nullement parti de Morel. Il est vrai qu'il eût pu l'apprendre en demandant à Morel quelques minutes d'entretien. Mais il jugeait cela contraire à sa dignité et aux intérêts de son amour. Il avait été offensé, il attendait des explications. Il y a d'ailleurs presque toujours, attaché à l'idée d'un entretien qui pourrait éclaircir un malentendu, une autre idée, qui, pour quelque raison que ce soit, nous empêche de nous prêter à cet entretien. Celui qui s'est abaissé et a montré sa faiblesse dans 20 circonstances fera preuve de fierté la 21e fois, la seule où il serait utile de ne pas s'entêter dans une attitude arrogante et de dissiper une erreur qui va s'enracinant chez l'adversaire, faute de démenti. On ne connaît pas son bonheur. On n'est jamais aussi malheureux qu'on croit. Mais il conta que cette existence durait déjà depuis plusieurs années, que tout ce qu'il pouvait espérer, c'est qu'elle durât toujours, qu'il sacrifierait ses travaux, ses plaisirs, ses amis, finalement toute sa vie à l'attente quotidienne d'un rendez-vous qui ne pouvait rien lui apporter d'heureux. Et il se demanda s'il ne se trompait pas, si ce qui avait favorisé sa liaison et en avait empêché la rupture, n'avait pas desservi sa destinée, si l'événement désirable, ce n'aurait pas été celui dont il se réjouissait tant qu'il n'eût eu lieu qu'en rêve, son départ. Il se dit qu'on ne connaît pas son malheur, qu'on n'est jamais si heureux qu'on croit. Quelquefois, il espérait qu'elle mourrait sans souffrance dans un accident, elle qui était dehors, dans les rues, sur les routes, du matin au soir. Et comme elle revenait saine et sauve, il admirait que le corps humain fût si souple et si fort qu'il pût continuellement tenir en échec, déjouer tous les périls qui l'environnent, et que Swann trouvait innombrable, depuis que son secret désir les avait supputés, et permis ainsi aux êtres de se livrer chaque jour et à peu près impunément à leur œuvre de mensonge, à la poursuite du plaisir.
Ainsi se termine cette émission consacrée au thème de « Les ruptures amoureuses » dans l'œuvre de Marcel Proust. Les plages musicales que vous avez entendues à différents moments de l'émission sont des extraits de quatre plages de l'enregistrement intitulé « 15 chants juifs pour violoncelle et piano ». Ce programme musical avait été réalisé à la demande de Chantal Ackerman pour la musique de son film « Histoire d'Amérique » en 1989. Les interprètes étaient Sonia Vider-Atherton au violoncelle et Daria Ovora au piano. Comme pour toutes nos autres émissions proustiennes, un partenaire comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique, sur qui a reposé cette réalisation, était André Bonhomme, que je remercie chaleureusement. Cette 13e émission devrait mettre un terme actuel à notre aventure proustienne, tout en ayant parfaitement conscience que nous sommes très très loin d'avoir épuisé le sujet. Thank you.
Franck.